Bonjour à toutes et à tous. Nous allons faire cette lecture de Ecclésiaste chapitre 4, versets 1 à 16. J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil, et voici les opprimés sont dans les larmes et personne qui les console. Ils sont en butte à la violence de leurs oppresseurs, et personne qui les console. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants, qui sont encore vivants, et plus heureux que les uns et les autres et celui qui n'a point encore existé et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. L'insensé se croise les mains et mange sa propre chair. Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère et pourtant son travail n'a point de fin à ses yeux qui ne seront jamais rassasiés de richesses. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Deux valent mieux qu'un puisqu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux dorment ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Car il peut sortir de prison pour régner, et même être né dans son royaume. J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil entourer l'enfant qui devait succéder au roi et régner à sa place. Il n'y avait point de fin à tout ce peuple, à tous ceux à la tête duquel il était. Et toutefois, ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet, car c'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Je vais prier. Je veux te remercier, Seigneur, pour ce texte, pour cette grâce de ta parole que tu nous laisses. Et je te prie pour qu'aujourd'hui ce texte nous travaille, nous transforme et que ton Saint-Esprit puisse travailler en nous jusqu'à la fin de nos jours. Je te prie pour que tu puisses me donner les mots et parler à ton peuple comme toi tu le veux dans ta souveraineté. Amen. La Bible parle de plein de sujets différents, dans des styles littéraires différents. La Bible, dans son immense variété, parle aussi d'un sujet particulier qui nous concerne tous pour tous les jours. C'est les tracas du travail. C'est le thème que nous allons aborder à partir du chapitre 4 du livre de l'Ecclésiaste. Et je tiens à dire que le sujet, c'est le tracas du travail, et non, il n'y a que des tracas au travail. Parce que, bien sûr, dans notre quotidien, et même dans les tracas du travail. Notre Dieu créateur de toutes choses est au-dessus du soleil. Il est hors du temps, et en même temps, la parole, et particulièrement ce texte que nous voyons aujourd'hui. Les trois premiers versets du chapitre 4 font suite au chapitre 3 qu'on a lu la semaine dernière. Il parle des injustices dans la vie. Et le milieu du travail, malheureusement, n'est pas privé de ces injustices. Il est même trop souvent bien ancré dedans, et cela nous crée des pieds, évidemment. Mais ensemble, nous allons parcourir quelques grandes lignes de cette thématique. Je n'aborderai évidemment pas tous les types de tracas liés à tous les corps de métier, sinon ça prendrait des heures, et j'ai un avion à prendre juste après pour la Genève. Donc, je voudrais finir trop tard. Le travail est très important dans la vie, en termes de temps, en termes de consécration, en termes de temps, parce qu'avec les trajets, on passe facilement 8-9 heures par jour pour le travail, soit plus de la moitié du temps où on est opérationnel, et cela pendant plus de 42 ans de notre vie. Les trois premiers versets nous parlent des opprimés qui ne trouvent pas de consolation. À deux reprises, l'Ecclésiaste dit « et personne qui les console ». Il nous parle des opprimés qui sont dans la désolation et va même jusqu'à dire que même la mort apporte plus de bonheur que la vie. Quand il dit que la mort apporte plus de bonheur que la vie, c'est une hyperbole. Une hyperbole, c'est une figure de style qui consiste à exagérer pour mettre en relief une idée. J'ai pris la définition sur Google. Donc. Le théologien Woody Lewis dit que l'absence de justice favorise l'effort au détriment des faibles. Aller au travail le matin à la boule au ventre n'est pas une exception pour certains. Beaucoup de gens sont dans ce cas-là. Ça a été pour moi-même le cas pendant longtemps, mais maintenant ça n'est plus, vous imaginez bien. Mais malheureusement, c'est une réalité pour beaucoup et dans tout type d'emploi. Il y a un stress permanent des journées, car il faut être rentable, faire toujours plus de bénéfices, une pression malsaine et trop souvent présente et oppressante. C'est la déshumanisation du salarié pour satisfaire des chiffres vertuels que l'on considère comme vertueux. On peut détruire la vie et la santé physique et psychologique d'un salarié pour gagner plus d'argent sur son dos, qui s'abîme au fur et à mesure des mois, des années, au détriment de sa personne, en le dévalorisant, sans respecter ses conditions de travail et sa personne propre. Même s'il traverse une période difficile de sa vie. Le déshonneur et le mal-être que l'on ressent parce qu'on est pris juste pour une machine à produire, à faire entrer de l'argent, pas toujours pour un salaire confortable, qui rendent parfois les difficiles les 30 derniers jours du mois. Sans la volonté plutôt de faire un discours stalinien hyper communiste, il y a des réalités qu'on observe dans ce texte et que l'exégèse veut parler. C'est des injustices. Mais quand la tristesse est à son comble, personne ne les console. L'Ecclésiaste dit au verset 4, « J'ai vu que toute la peine que l'on se donne et tout le succès que l'on cherche dans une entreprise ne sont motivés que par la jalousie de son prochain. » Notre jalousie, en plus des exigences des entreprises, peut diviser les salariés en plusieurs clans et faire plonger dans la solitude d'autres salariés. Quand les demandes aux salariés sont trop exigeantes, les salariés plongent dans le mal-être et cela a un caractère, ça c'est un caractère de la société individualisante, qui nous rend individualistes. Ça crée des fossés entre les collègues car chacun va se concentrer pour réussir ses tâches quitte à écraser les autres. Et oui, la réussite personnelle est considérée comme plus importante que de vivre en harmonie avec les autres. Mais il n'y a pas que des tracas qui se vivent sur place au travail, comme je viens d'en mentionner. Il y a aussi des tracas des jeunes qui entrent dans le milieu professionnel. Beaucoup de jeunes, à peine en âge de commencer à travailler, ont peur d'entrer dans la vie active en voyant leur famille en subir des conditions extrêmes de travail. Ça a été mon cas. C'est le principe de l'élastique, en fait. Quand on tire dans un sens, il repart dans l'autre. Et ce qui fait qu'on peut rapidement se trouver trop incompétent pour un emploi, avec les diverses pressions qui sont faites, et on peut rapidement perdre confiance en soi en démarrant un emploi. Dans beaucoup d'entreprises, on met la barre très haute dès le départ. Un jeune qui démarre doit faire le travail de 3 personnes, il doit subir les railleries des plus anciens, et finir rapidement écœuré du travail. Et personne qui les console. En lisant les versets 6 à 8, l'Ecclésiaste nous met en garde. La paresse est une tentation à laquelle on peut succomber. Le fait de vouloir vivre que pour profiter de la vie en restant dans l'inactivité, comme si le fait d'être paresseux supprimerait les tracas de la vie, alors que lorsqu'on ne travaille pas, on développe d'autres tracas en fait, d'autres types de tracas. Même inconsciemment, car l'être humain est fait pour se rendre utile en travaillant. L'Ecclésiaste nous dit que mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. Un autre avantage que le travail nous offre, c'est de bien profiter du repos. Quand on ne travaille pas, on ne bénéficie pas d'une bonne fatigue, en fait, et d'un bon repos. Parce que la paresse n'est pas reposante en soi. On a besoin de trouver un équilibre, en fait, entre le repos et le travail, l'activité. Et trop travailler, se tuer à la tâche pour manquer de repos est néfaste pour notre santé et même pour nos collègues. Il y a des études même qui montrent que travailler 7 jours sur 7 n'est pas plus rentable que de travailler 6 jours sur 7. Au Japon, les salariés font régulièrement des siestes durant leur travail. J'imagine que ça donne envie, mais en fait ils travaillent une cinquantaine d'heures par semaine. Et en fait, ça leur permet de faire un travail plus productif et de gagner en rentabilité. Et selon un article de France Mutuelle, lorsque les salariés sont bien reposés, ils sont plus créatifs, de meilleure humeur, et leur productivité augmente de 35%. Une main reposée produit un travail plus précis, plus réfléchi, alors que deux mains épuisées travaillent avec stress, manque de concentration et fatigue générale. Une seule main reposée produit un meilleur travail que deux mains fatiguées. L'important n'est pas la qualité des mains qui travaillent, mais c'est de travailler avec des mains reposées pour produire un travail de qualité. À l'inverse de la paresse, pour laquelle on n'est pas fait, comme je l'ai mentionné, on peut aussi tomber dans la quête de vouloir trop travailler, pour par exemple gagner plus d'argent, ce qui va nous pousser à travailler beaucoup trop et détruire notre vie familiale, manquer de présence pour nos époux, nos épouses, pour nos enfants et la famille en général, et qui aura des conséquences désastreuses à court terme et à long terme. Et aussi, on ne s'aère plus l'esprit en faisant des activités diverses et variées qui sont basées sur nos centres d'intérêt. Parce qu'il faut aussi s'occuper de soi. On peut détruire sa vie sociale pour courir après l'infinitude du travail, pour satisfaire des exigences de richesse qui ne seront jamais rassasiées, ou parfois même pour des raisons plus nobles, car notre famille est dans le besoin. Et cela s'appelle l'hypertravail. Et même si notre famille est dans le besoin, ça reste de l'hypertravail. Et cela rend seul, comme le dit l'Ecclésiaste. Malheureusement, tout cela sont les conséquences de notre désobéissance que nous héritons d'Adam, et que l'on voit en Genèse chapitre 3, versets 17 à 19. Il dit, Dieu dit à Adam, « Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons. Tu en mangeras des produits du sol. Tu en tireras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes à la terre puisque tu as été tiré de celle-ci. Car toi, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Le travail en lui-même, bien sûr, n'est pas une conséquence du péché d'Adam, puisque Dieu a ordonné le travail aux hommes avant l'entrée du péché dans le monde. Et ça, on le voit dans Genèse chapitre 1, verset 26. Le péché dans Genèse 1 n'était pas encore présent. De manière générale, on connaît les vanités du travail, les tracas, l'anxiété, car nous sommes pécheurs. Et que selon Romains chapitre 8, verset 20, l'univers a été soumis à la vanité. On peut se poser la même question que Ecclésiaste, chapitre 1, verset 3. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Mais malgré le péché d'Adam et Ève et ses conséquences, le travail garde des avantages, et c'est le deuxième point de ce message. L'Ecclésiaste, au verset 9 à 12, nous dit que le travail permet de se tirer vers le haut entre collègues. On a eu un petit teaser de ce verset hier au mariage. Et qu'on a chacun nos forces et nos faiblesses. Il y a une complémentarité et une dépendance entre nous qui se crée. Et Dieu a créé l'être humain comme un être social. Et c'est un don qu'il nous a créé de dépendre les uns des autres. Le travail renforce l'unité et l'entraide, et ça nous permet de faire face à l'adversité, aux difficultés diverses et variées dans la communion que Dieu a créée, car à plusieurs, on est toujours plus fort. Par exemple, si on a un collègue qui traverse une situation douloureuse dans sa famille et qui a du mal à se concentrer au travail, on peut le décharger d'une partie de son travail afin de le soulager. Et quand on est épuisé, l'un relève l'autre et vice-versa. Même si des fois on a beaucoup de choses à faire, on a un emploi du temps qui est surchargé, il faut quand même écouter les considérations, les besoins de ses collègues. Et ce don de Dieu est un outil pour grandir et tirer un bon profit dans le domaine du travail. Et l'Ecclésiaste finalement nous dit que l'égoïsme et la jalousie sont contre-productifs. L'Ecclésiaste dit au verset 5 que l'homme stupide croise les bras et se détruit lui-même. Donc à l'inverse, Ça signifie que l'homme intelligent travaille et se construit lui-même. Se construire, s'édifier, est un avantage que Dieu nous offre au travers du travail. Alors, travaillons avec l'Évangile. Troisième point, je vais l'introduire avec les versets 13 à 16. Quand l'Ecclésiaste nous parle de la vanité du pouvoir politique. La question qu'on peut se poser est, vers qui va-t-on se tourner pour demander du secours quand on a des problèmes économiques de manière personnelle, financière? Dans nos temps modernes, on entend beaucoup dire que ça ne vaut pas la peine de travailler, car notre gouvernement nous prendrait trop de taxes et trop d'impôts, et que finalement on ne travaille plus pour soi-même, mais pour l'État. Mais le problème, c'est que la Bible ne dit pas ça. Et s'il y a des baisses de recrutement dans l'aéronautique, par exemple, ce n'est pas à cause du jeune âge du président qui démontrerait un manque d'expérience, que la France a des dysfonctionnements, comme on l'entend souvent, mais le texte dit que c'est la stupidité et le fait de ne plus se laisser avertir qui fait qu'un pays part à la dérive. Le président et les autorités en général ont besoin d'acquérir la sagesse afin de présider et de gérer au mieux un pays, un peuple entier. L'État n'est pas le sauveur. Dans notre culture française, c'est ce qu'on croit, on ne compte que sur l'institution de l'État pour sauver notre vie et pour l'améliorer, alors que la réalité est autre. La réalité est qu'il n'y a que Jésus qui peut la sauver. Et Jésus nous confère le pouvoir de l'améliorer par le don du travail, de développer sa création. Alors c'est sûr qu'il vaut mieux avoir des dirigeants qui dirigent avec sagesse que des mauvais dirigeants, mais notre espoir premier ne se trouve pas dans l'homme ni dans ce qu'il entreprend. Notre espoir premier est en Jésus, le Sauveur qui apporte le secours et la prospérité dans le travail. Mais attention, on ne peut pas se servir de Dieu pour prospérer économiquement. Dieu n'est pas notre second. Il n'est pas notre coéquipier, il n'est pas le gars qu'on prend, voilà. Et il n'est pas un coup de pouce, en fait, qu'on peut prendre et délaisser. Et qui nous aide à améliorer notre influence et notre progrès professionnel. Comme on l'entend beaucoup aujourd'hui dans le faux évangile de la prospérité. Mais il est tout à fait le contraire. Il est le premier et le dernier. Ce qui explique qu'il est le premier et le dernier dans notre travail, dans nos activités. Dieu peut nous faire prospérer économiquement un peu, beaucoup, voire pas du tout, selon sa souveraineté et sa volonté parfaite. Nous devons avoir du respect pour Dieu, nous humilier devant lui. Le travail est une bonne chose créée par Dieu et je souhaite vous partager ce verset qui est dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Bonne nouvelle, quand personne ne console les affligés, le Saint-Esprit peut le faire. Les personnes atteintes par la solitude, les opprimés, ceux qui ne sont consolés par personne, peuvent compter sur Dieu. Dieu permet parfois que des épreuves arrivent afin qu'on puisse apprendre à courir vers lui. Le Saint-Esprit est celui qui nous rappelle les commandements de Jésus. Comment Jésus veut qu'on surmonte ces tracas du travail? Il est essentiel pour les plus jeunes d'acquérir de la sagesse en la demandant à Dieu, de lui demander du discernement pour constater et comprendre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Car il vaut mieux être un enfant sage qu'un roi avancé un âge et stupide, selon le verset 13. Il faut être équilibré et ne pas suivre le mouvement de l'élastique. Rappelez-vous de l'élastique. Mais il faut suivre le mouvement de l'esprit. L'esprit se mouvait au-dessus des eaux, en Genèse 1. Là, il faut suivre le mouvement de l'esprit, aller là où il veut nous amener, c'est-à-dire avoir la vie comme Dieu la voit. Dans une vision équilibrée du monde, en regardant au-dessus du soleil. Conclusion. Soyons reconnaissants envers Dieu, car il nous donne du travail. Soyons reconnaissants quand nous n'avons pas de travail, car ça permet aussi de se forger et de prendre conscience de la grâce d'avoir un travail pour vivre simplement dans le content, pour vivre simplement dans le contentement. Il y a un problème aussi très présent, c'est qu'on regarde trop à ce qu'on n'a pas au lieu de regarder à ce qu'on a. On regarde trop en dessous du soleil au lieu de fixer nos regards au-dessus du soleil et d'avoir une attitude de compter d'abord sur Dieu pour notre travail. On a besoin de regarder à Christ pour aller au-delà du soleil avant que nous tout n'éclate dans notre vie familiale et sociale. Ne soyons ni paresseux, ni dans l'excès de travail. On a besoin d'être équilibré pour rendre gloire à Dieu dans notre vie professionnelle. Paul dit en Romains chapitre 12, verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » On peut compter sur l'œuvre du Saint-Esprit, qui est le Consolateur, qui peut consoler ce que personne ne console. Alors cherchons constamment à être remplis de son Saint-Esprit. Si vous voulez que votre cœur se repose en contraste avec Ecclésiaste chapitre 2, verset 22-23, que je vous laisserai lire, « Allez vers Jésus, car on peut trouver du repos en lui, car il est le seul repos, il est le sabbat. » Et ce texte nous montre qu'on doit être les témoins de Jésus dans le travail. Et le baptême est une prise de position pour Christ en public dans l'Église, mais pas seulement. Il y a aussi un témoignage à l'extérieur, une prise de position de Christ même dans le milieu du travail. Et je prie pour que ce texte d'Ecclésiaste 4 reste accroché à notre cœur jusqu'à la fin de nos jours passés sous le soleil. Amen. Je vais prier. Je te remercie, Seigneur, encore pour ce texte que tu nous as laissé. Et je te prie pour qu'il puisse rester ancré en nous. Que ces valeurs, que ce message que tu veux nous faire passer par l'Évangile puisse rester ancré en nous, même dans notre subconscient jusqu'à la fin de nos jours. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour ton œuvre parfaite, pour la croix. Merci Seigneur pour qui tu es simplement. Amen.